À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'un jésuite vraiment merveilleux, le bienheureux Rupert Mayer, ou Rupert Mayer, mais peu importe, on va le prononcer un peu à la française. C'est un jésuite allemand de Munich qui s'est opposé de façon extrêmement courageuse au régime nazi dès le début. Et évidemment qu'il a été martyrisé, il a été très maltraité, et il en est mort en 1945, juste après la libération. Un homme courageux, très solide, et c'est surprenant qu'ils aient pu, pour ainsi dire, l'achever, ces nazis. Ça rappelle une parole, ça, de Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 10. Vous connaissez ça, hein? « Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre les parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon sera sauvé, dit Jésus. » Vous savez qu'à Munich, qui est la capitale de la Bavière, c'est une ville très catholique, Munich, c'est en plein cœur donc de cette cité de Munich que se trouve la chapelle de la Congrégation mariale des hommes, le Bürgersaalkirche. Et il y a un flot ininterrompu de visiteurs. Ça a diminué un peu, mais il y en a eu pendant longtemps. Il y a un moment donné, on en pointait jusqu'à 6000 visiteurs par jour. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces visiteurs? Ils viennent prier sur la tombe du père Rupert Mayer, mort le 1er novembre 1945. Je ne peux difficilement parler de lui le 1er novembre 1945. C'est le jour de sa fête, mais c'est la fête de la Toussaint. Je l'ai donc reporté à aujourd'hui. Une rue de la ville de Munich porte son nom et perpétue son souvenir. Et savez-vous que son intercession attire beaucoup de grâce? Il y a un procès diocésain qui a été ouvert en vue de sa béatification. Les actes ont été déposés à Rome en 1952. Et il a été finalement béatifié en 1982-83. Dans le stade de Munich, le stade olympique, par Jean-Paul II. C'était une béatification. C'est plutôt en 1987 qu'il a été béatifié, le 3 mai, dans ce stade olympique de Munich. C'est une figure originale, c'est une personnalité puissante. C'est un jésuite comme... Quand je pense à ces jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie à 25, 26, 30 ans, rentrez donc chez les jésuites et devenez des hommes comme ça, ça va faire... Ça va transformer notre Église. Il y en a des jeunes actuellement qui se préparent chez les jésuites. Il y a un noviciat. Il mérite d'être connu, ce père Rupert Mayer. Au Québec, oui. Et je ne crois pas... que le père Mayer soit canonisé encore, mais il devrait l'être très bientôt. Il est né à Stuttgart en 1876 d'une famille de commerçants qui était à l'aise et qui était profondément catholique. Et à l'école de son père, c'est son père qui le formait à la maison, il apprend la maîtrise de soi, en bon allemand, quoi, en bon bavarois. De sa mère, il hérite une humeur plutôt enjouée, une vive imagination. Et ce mélange des deux le rend solide comme le roc. Hein? Rupert est bien doué pour le sport. Il sait nager à 6 ans. À 10 ans, il fait de l'escrime. À 13, il monte à cheval. Et voici à ce sujet d'ailleurs un trait caractéristique de la manière dont il a été élevé. Écoutez bien ça, c'est amusant. Un soir, Rupert rentre enthousiasmé. Il y a un cirque qui vient d'arriver en ville, à Munich. Il en admirait les équipages, à Stuttgart plutôt ça. Il en admirait les équipages et puis il dit « Papa, nous permets-tu d'aller au cirque? » Et le père lui dit « Mais pourquoi? Pourquoi tu veux aller au cirque, mon garçon? » Alors, il dit, les autres y vont bien. Et le père lui répond, ah, 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 les autres y vont bien. Eh bien, alors, vous n'irez pas. Son père, M. Mayer, reste inflexible dans sa résolution. Le coup est dur parce que les enfants baissent la tête, ils sont plusieurs, le lendemain. M. Mayer leur explique, on ne doit pas faire quelque chose parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, fais-le donc, hein, comme on a répété pendant des années ici au Québec. Et il ajoute, il faut agir par conviction personnelle. Et quelques jours plus tard, Rupert Mayer renouvelle sa tentative. Et là, le père lui dit, pourquoi veux-tu aller au cirque? Bien, pour voir des beaux chevaux. Et cette fois, son père consent. Et quand son fils revient du cirque, plein de tout ce qu'il a vu, il lui propose « Et toi, veux-tu apprendre à monter à cheval? » Alors les six frères et sœurs s'entendent fort bien, c'est une bonne famille. Sa sœur aînée, qui va mourir d'ailleurs religieuse du Sacré-Cœur, il y en a été question des dames qu'on disait du Sacré-Cœur. Oui, les sœurs du Sacré-Cœur. Ben, elle est morte, sœur du Sacré-Cœur, à Tokyo, au Japon, elle a été missionnaire là-bas. Et elle déclare d'ailleurs n'avoir jamais été battue par lui. Il n'y a jamais eu de dispute. Hein. Quand les parents demandent « Où irons-nous cet été en vacances? » Bien, les enfants répondent en chœur « Peu importe, pourvu qu'on reste ensemble. » Or, à l'école primaire, Rupert Mayer se révèle un élève studieux avec de bons moyens. Et si les maths lui coûtent, il n'aime pas tellement ça. Il s'intéresse beaucoup à l'enseignement religieux. Et il cherche auprès de son professeur, on pourrait dire, des munitions pour défendre le pape et les jésuites. Pourquoi? Parce que ses camarades dans cette école sont en majorité protestants. Et un jour, l'un d'eux tombe à genoux devant lui en ricanant, c'est à Stuttgart. Voilà comme les catholiques prient leur mari. Prient la Sainte Vierge, quoi. Voilà comment les catholiques prient leur mari. Et Rupert Mayer, enragé noir, lui donne une telle raclée que l'autre n'a plus l'idée de recommencer. C'est pas la façon de traiter les protestants qui se moquent de nous, c'est sûr. C'est un gamin. Il va être béatifié. C'est signe qu'il va changer. Hein. Mais on voit le caractère qu'il a. C'est un gars. Et toute sa vie, sa prédication surtout sera marquée par le souci apologétique. Il veut proclamer ce qu'il croit être vrai. Ses parents manifestent dans leur conduite, d'ailleurs une foi exemplaire eux aussi, jamais ils ne partiraient en excursion le dimanche sans avoir assisté évidemment à la messe. Dès le 30 novembre, on célèbre l'Avent en famille. On sait que c'est la fin de l'année liturgique, c'est le début d'une nouvelle année. Ils célèbrent en fait le nouvel an en célébrant l'Avent. Ils se préparent à Noël, comme des catholiques. Ils pensent pas au 1er janvier, qui ne veut rien dire. M. Mayer marque l'armoire aux jouets de 25 traits de craie. Pourquoi? Parce que chaque soir, un enfant est invité à en effacer un, et à la veille du grand jour de Noël, eh bien, au signal d'une clochette, toute la famille se rassemble au pied de la crèche pour chanter des Noëls. Et les Allemands, vous savez comment ils aiment chanter ensemble. Comme on faisait ici, nous avions cette tradition. Je crois qu'elle existe encore, je l'espère, qu'elle va revenir. Hein. Et son éducation bourgeoise ne l'empêche pas de frayer très simplement avec tout le monde. Un jour, dans une rue montante de la ville, il rencontre un pauvre diable qui tire une charrette. Et spontanément, un bon petit gars, il se met à pousser derrière la voiture. Il rend service. Hein. À 16 ans, Rupert Mayer a besoin de changer d'air et raison de santé, épreuve aussi. M. Mayer veut que son fils fortifie ses convictions religieuses. Il fréquente alors dans le Jura Souabe, le lycée de Ravensbourg, et il prend pension dans une famille. Il écrit à son père, « Sais-tu, papa, la fille de mon hôtesse joue très bien du piano et m'accompagne chaque soir au violon. » Oh là là là, M. Mayer fronce ses sourcils, il trouve que c'est un peu jeune. Qu'est-ce qui va arriver? Alors une franche explication le rassure bientôt aux vacances suivantes. Il apprend que la pauvre demoiselle, elle est pas chanceuse, elle est affligée d'une laideur plutôt repoussante. Au collège, Rupert Mayer prépare le baccalauréat avec d'autres élèves qui sont des anciens du collège jésuite de Feelkirk. Et en donnant les résultats de l'écrit, le proviseur dit « Vous êtes tous admissibles. 5 d'entre vous, à cause de leurs notes, sont dispensés de l'oral. » Et puis là, il donne les noms. Rupert Mayer. Et à l'appel de son nom, Rupert bondit vers la porte et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» interroge le proviseur, hein, surpris, parce que il y a une interruption dans la liste qu'il veut donner. « Il faut que je téléphone à la maison immédiatement. » Alors sa vocation se dessine alors. Fini son rêve d'enfant d'être jockey. Il voulait être jockey. Il aimait les chevaux. Hein. Fini son désir plus sérieux de suivre la carrière militaire dans la cavalerie. Aujourd'hui, il déclare à son père, « Je serai jésuite. » Et pourquoi veux-tu être jésuite? Il dit, « L'ordre est persécuté, puis il forme à merveille ses sujets. Je veux pour moi cette formation. » Alors, son père dit, « D'accord, mais moi, je veux d'abord que tu sois prêt pour mûrir cette décision. » Alors, de 1894 à 98, lui, qui se fait surnommer Hannibal à cause de son tempérament combatif, va donc mener la vie d'étudiant. Une année de philosophie à Fribourg, en Suisse, une de théologie à Munich, deux autres à Tübingen, avant d'entrer au grand séminaire de Ravensburg pour recevoir les ordres. Vie très libre, en pension chez l'habitant. Vie qui nous étonne aujourd'hui de la part d'un jeune homme qui est destiné au sacerdoce, hein, c'est que le nouveau droit canon n'avait pas encore codifié des règles plus strictes. Mais chez un homme aussi pondéré et réservé, bien, cette vie va lui permettre d'expérimenter, si on peut dire, en pleine pâte humaine, là, des tas de choses qui vont l'aider à être un meilleur prêtre, plus solide, surtout qu'il y a beaucoup de protestants. Partout où il passe, il s'inscrit aux associations catholiques d'étudiants. Il arrive à cheval à l'université pour le cours de théologie. Il vide des pots de lait, sa santé l'y oblige du reste. Et quelques camarades lui apprennent même à danser. Et un soir, d'une excursion qui était plutôt fatigante en montagne, là, tandis que son ami se jette au lit, lui, il reste à genoux un quart d'heure. Sans rien raccourcir de sa prière habituelle, hein, les fidèles. Le dimanche, après la messe, très tôt, la messe de communion, c'était très tôt pour communier, n'est-ce pas? Il fallait être à jeun depuis minuit. Il siffle sous les fenêtres de ses camarades et les entraîne à une messe plus tardive, certains qui seraient peut-être tentés de la manquer. C'est un apologète, hein? C'est un missionnaire en plein milieu chez lui, quoi. Et en vacances, ben, il amène chez lui d'ailleurs deux ou trois amis qui lui paraissent plus exposés, puis il émane de lui une force de caractère, une noblesse intérieure, son allure sportive, son application à l'étude en impose à tout le monde. Et plus tard, à Munich, il va se rendre à une conférence anticléricale organisée par un de ses anciens camarades d'études qui a perdu la foi. Et cet orateur déverse sa bile contre l'Église. Et au milieu du discours, Rupert Mayer se lève, le regarde fixement. Et là, décontenancé, le conférencier ne peut achever. Il doit quitter la salle. Alors, il n'est pas surprenant qu'après ses quatre années à l'université, notre Hannibal, comme on l'a surnommé, trouve le grand séminaire extrêmement sévère, dit-il. Il reçoit l'ordination sacerdotale le 2 mai 1899, et notre jeune prêtre, à peine âgé de 23 ans, célèbre à Stuttgart, dans l'intimité, sa première messe, et en bon prédicateur, il conclut son sermon d'une manière prophétique. « Puissiez-vous dire un jour, nul ne s'est perdu par ma faute. » J'ai tendu de toutes mes forces vers l'idéal que Dieu m'a fixé. Et en répondant plus tard à l'interrogatoire que lui feront subir les nazis, le prisonnier du Christ va dire d'ailleurs, « C'est par amour pour les hommes que j'ai embrassé la vie sacerdotale et religieuse. » Alors, l'abbé Rupert Mayer, qui va devenir jésuite, hein, l'abbé Rupert Mayer, qui a 23 ans, fait une année de vicariat à Speichingen, dans le Württemberg. Et puis, il sait se gagner le cœur des paroissiens. C'est un très bon jeune prêtre. Un jour, la bonne casse une bien jolie lampe qu'il vient de recevoir en cadeau. Elle s'attend à ce qu'il lui dise sa façon de penser. Et lui, bien jeune, il a changé depuis le temps où il a donné une raclée à un jeune protestant, là, quand il était beaucoup plus jeune. Il lui dit, « Voyez-vous, le bonheur est aussi fragile que le verre. » Il y a déjà une énorme transformation en une quinzaine d'années. Il s'ingénie de mille manières à rendre service au risque de se faire exploiter. Il apporte à une malade une bouteille de vin, c'est le mari qui la boit. Bien des fois encore, il sera victime de ce qu'il appelle avec indulgence la faiblesse humaine. Sa charité ne se ralentit pas. Beaucoup de prêtres que j'ai connus sont comme ça. Faites attention quand vous allez chez un prêtre. Ne dites pas que tel cadre ou tel objet vous plaît beaucoup. Souvent, ils veulent nous les donner. Ils sont beaucoup plus généreux qu'on pense, vous savez. Souvent, Rupert Mayer, l'abbé Mayer, égaye les soirées avec son violon, puis le samedi, quand l'inspiration n'est pas encore venue pour le sermon du lendemain, il saisit encore son violon pour essayer de trouver une inspiration. Mais il veut être jésuite. Il l'a ça au cœur. L'épreuve imposée par son père touche à sa fin. Au bout d'un an de vicariat, vous savez, vicariat, ça veut dire être l'assistant d'un curé dans une paroisse. J'ai dit ça pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas ces mots-là. Il demande, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de 15, 16 ans qui m'écoutent, il demande à son évêque les lettres pour se retirer du clergé séculier, des prêtres ordinaires, là, pour devenir jésuite. Alors, le 1er octobre 1900, il entre au noviciat des jésuites à Tisis, près de Feldkirch. Le père Müller, maître des novices, lui fait une grosse impression. C'est un jésuite qui incarne la règle. Ici, plus d'équitation, plus de violon. Pour balayer les corridors, faire la vaisselle, désherber le jardin. Et Rupert Mayer, novice, n'en perd pas pour autant son sourire ni sa vivacité d'esprit. Il a beau être prêtre, il se soumet à tous les règlements. Au bout de 2 ans, il est admis à prononcer ses vœux de jésuite. Et 2 ans encore pour compléter ses études, et le voici à un poste de confiance. Il est adjoint au père maître. Ça fait un drôle de tandem qui peut pas durer parce qu'ils sont trop différents. Autant le maître, le père maître, là, est sérieux et sec. Autant son socius, comme on dit, S-O-C-I-U-S chez les jésuites, on appelle ça comme ça. Autant son socius se montre gai et enjoué. Et le père maître n'aime pas tellement les rires que soulève son socius s'il est les autres novices. Hein. Aussi, l'année suivante, en 1905, le jeune jésuite est envoyé en Hollande pour achever sa formation religieuse au troisième an. Ils font ça, un troisième an. C'est toujours des études et des études. Les jésuites en font pendant longtemps, comme vous savez tous. Et après quoi, ils travaillent pendant 5 ans aux missions paroissiales en Rhénanie et dans le Bade-Württemberg. Jusqu'à ce que, au début de 1912, là, il y a un appel du cardinal Bettinger qui le fait venir à Munich, où il se fixe. C'est là qu'il devient munichois. Et pendant 33 ans, il va y donner sa mesure à Munich. Il a 37 ans à ce moment-là quand il arrive là. La grande ville de Munich attire alors chaque année 23 000 travailleurs de la campagne. Il faut les accueillir, il faut les prémunir contre les dangers d'une dissolution de leur vie, de leur foi et de tout ce qu'ils sont, et de tomber dans une espèce de matérialisme imbécile, puis de tomber dans l'indifférence et l'athéisme. Alors, en liaison avec Caritas, c'est le secours catholique, hein, le père Mayer organise l'accueil. Et chaque soir, bien, il va dans les faubourgs, il grimpe les escaliers, puis il cherche les adresses à la lueur d'une lampe de poche pour visiter les nouveaux venus. Et que de fois, sa mère va être obligée de renouveler ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il les a distribués à ses pauvres amis. Le marxisme exerce alors une grosse influence sur les masses populaires. Il en suit de très près les efforts. Il en étudie aussi les fondements philosophiques, évidemment, parce qu'il veut comprendre le marxisme. Et pour en connaître les méthodes aussi, il se mêle en civil aux excursions organisées par ce que les marxistes appellent la libre pensée. Habillé en civil. Ça s'appelle la libre pensée. Libre? Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Libre. On a vu ce que ça a donné, hein, jusqu'à la chute du rideau de fer. Libre pensée. Et quand, en 1912, une congrégation religieuse se fonde pour pénétrer l'esprit chrétien, là, les femmes du monde ouvrier, les sœurs de la Sainte Famille, c'est pas les mêmes que les nôtres, hein, on lui confie leur formation religieuse. Alors, il leur donne les exercices spirituels de Saint-Ignace, il les confesse, puis après la guerre, il devient leur père spirituel. Il va devenir leur père spirituel. En 1918. Pendant 4 ans, donc cette première guerre mondiale, l'arrache à Munich. Il est engagé comme aumônier volontaire, il suit les hommes dans les grands combats, là. Et il sera le premier prêtre à recevoir la croix de fer de première classe. C'est une énorme décoration allemande, là. Au cours d'une attaque sur la Somme, un soldat gît par terre sur le bord d'une tranchée. Il est grièvement blessé. Puis un violent bombardement qui étouffe ses cris. Et il s'écrie « Amenez-moi, amenez-moi !» Et là, l'aumônier, le père Mayer, le couvre de son corps et lui dit « Sois tranquille, mon ami. Si un obus vient, je serai tué avant toi. » Le 30 décembre 1916, sur le front de Roumanie, il est grièvement blessé à la jambe. Comme l'a été, vous vous souvenez, Saint-Ignace au siège de Pampelune, je vous en ai parlé de Saint-Ignace. Comme aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Josaphat, je vous en ai déjà parlé. Hier, c'était la fête de Saint-Martin de Tours, je vous en ai déjà parlé. C'est pour ça que je fais d'autres personnes d'année en année, mais je reviendrai sur ces grands saints l'année prochaine, surtout pour l'an 2000. Et alors donc, il est comme Saint-Ignace, il est blessé à la jambe. C'était au siège de Pampelune, vous vous souvenez, hein? En Espagne, en Pays Basque. Et comme donc à son saint préféré, Saint-Ignace, aussi, on renouvelle plusieurs fois l'amputation. Puis il est même administré des derniers sacrements parce qu'on croit qu'il va mourir. Et cette blessure va lui causer toute sa vie en captivité, surtout de grandes souffrances. Il va avoir une jambe de bois. Après la défaite allemande, la révolution éclate à Munich et le père assiste aux conférences contradictoires pour défendre les droits de l'Église. Ça ne l'empêche pas, à l'entrée de l'armée blanche dans la capitale de la Bavière, à Munich, de cacher le revolver d'un émeutier pour éviter que celui-ci soit condamné à mort. Alors, auréolé par le prestige de sa bravoure, le père Mayer reprend ses activités charitables et apostoliques avec un succès grandissant. Alors, il est nommé en 1921, directeur de la Congrégation mariale des hommes de Munich. C'est dans leur chapelle qu'il est enseveli à Munich. Ce bienheureux. Cette congrégation mariale, vieille de 3 siècles, groupe l'élite des catholiques. C'est elle qui a bâti le Bürgersaal, où repose maintenant justement le corps du grand apôtre. Et après la guerre, une réorganisation par paroisse double ses effectifs, qui vont atteindre cet énorme 7000 membres, en 1938, le premier dimanche du mois, il y a une assemblée générale qui groupe des milliers d'hommes et le père aborde devant eux des sujets brûlants d'actualité. Là. Un catholique peut-il être nazi? La responsabilité collective du peuple allemand dans la guerre? Le procès des devises? L'école confessionnelle? Etc., etc. Et il est très, très audacieux dans ses sujets sous régime nazi. En même temps, il oriente ses hommes vers Caritas là, et les œuvres sociales. La véritable piété ne doit-elle pas se traduire, d'ailleurs, en amour du prochain? C'est sûr, hein? Qui n'aime pas son prochain, il n'aime pas vraiment Dieu. Hein? Pie XII, alors nonce en Bavière, se souviendra longtemps de l'activité apostolique de cette union mariale quand il va fêter à Rome son jubilé de congrégationniste. De congréganiste, devrais-je dire. Voici ce qu'il dit. Il dit « Quelle sève, quelle plénitude de vie chrétienne a manifesté la congrégation mariale dans la famille et dans la vie civique, j'en ai été moi-même témoin durant ma nonciature à Munich. » Alors, le père Mayer ne cherche pas les grands effets oratoires, il n'a pas... c'est pas un théologien de carrière, mais il exerce une influence très profonde par sa parole. Puis là, vous verrez la fin, tout à l'heure, quand je vous raconterai, là, les juges nazis le reconnaîtront eux-mêmes. Il parle avec autorité, ça ne l'a pas quitté. Et quand on affirme « le père Mayer l'a dit », il n'y a plus rien à ajouter, c'est un argument sans réplique, parce que sa conviction intime passe dans sa parole. Il a le don de persuader. Il emploie du reste des mots très simples. Il atteint ses auditeurs dans leur situation concrète. Que ce soit à l'atelier, au bureau, dans la rue, en famille, chacun se sent visé et ses succès le laissent humble. À la Libération, un catholique écrit au cardinal en 1945, « Ne laissez plus le père remonter en chair, il est trop âgé. » Alors, il écrit en même temps à l'intéressé, là, au Père Maillard, pour le féliciter de son activité apostolique, mais le malheur, il se trompe d'enveloppe, il se trompe de lettre, si bien que, sans le vouloir, c'est le Père Maillard qui reçoit la lettre qui est adressée au cardinal. Et le Père Maillard rit lui-même de bon cœur en racontant cette méprise à ses collègues. Il a alors 69 ans parce qu'il lit « Ne laissez plus le Père remonter en chair, il est trop âgé, ça le fait rire. » Dès les premiers discours d'Hitler à Munich, l'attention du Père Maillard est en éveil. Pour s'informer exactement sur la doctrine, nouvelle doctrine nazie, tous les 15 jours, il va l'entendre, ce Hitler. Deux points particulièrement le mettent en garde contre les dangers qu'il pressent. D'abord, c'est une question de valeur morale. Parce que, selon les nazis, est bon tout ce qui sert au peuple allemand. Et mauvais tout ce qui lui nuit. Et puis il y a le rejet de la Bible comme livre juif. Oh, chez lui, du reste, le patriotisme ne peut dégénérer en orgueil national, jamais, jamais. Il ne cache pas son opinion. À la fin d'un discours qui a suscité l'enthousiasme général, on lui demande en public, comme ça, « Eh bien, mon père, que pensez-vous d'Hitler ?» C'est un orateur remarquable, mais il en prend son aise avec la vérité. Aussitôt, un murmure de colère couvre sa voix. Dès 1923, il aborde ce sujet de conférence. Un catholique peut-il être nazi? Alors, il y a des applaudissements qui éclatent à l'apparition du jésuite, et celui-ci les arrête court. Il dit tout de suite, « Vos applaudissements viennent trop tôt, car ma conclusion sera très claire. Un catholique ne peut absolument pas être nazi. » Alors là, il y a des huées, et ça l'empêche de continuer. Il ne peut pas donner sa conférence. Il n'admet aucun compromis avec le national-socialisme d'Hitler. Il dénonce tous les manquements au concordat, puis il rend ses décorations, y compris cette fameuse croix de fer qui s'était méritée. Quand les associations d'anciens combattants adhèrent au régime, là, il est complètement hors de lui. Les nazis le considèrent comme un rebelle, un danger public. Ils lui tendent des pièges pour le saisir. Il est appelé un soir auprès d'un malade. Imaginez ce qu'on lui fait, c'est épouvantable. Quand il ouvre la porte, il se trouve en présence d'une personne dévêtue, un photographe à ses côtés. Instinctivement, le père cache son visage et referme la porte. Le 3 mai 1937, il reçoit de la Gestapo un premier avertissement dont il ne tient pas compte. Le 16 mai 1937, on lui interdit de parler. Alors, le père se met à prêcher. Quel courage, vous allez voir, c'est fantastique. Le 28 mai, nouvel ordre. Défense de prêcher. Le père passe outre et est arrêté pour la première fois, le 5 juin, toujours 1937. Deux policiers pénètrent dans sa chambre. Écoutez bien, ça, c'est un samedi à 14 heures. Le père est en train de réciter son bréviaire. À ses pieds, une valise toute préparée avec du linge prouve qu'il attend son arrestation. Il saisit le téléphone pour prévenir son supérieur jésuite de son départ. Les agents l'en empêchent. Son calme les impressionne terriblement. Il est interné au Palais Royal et le lendemain, quand il entend les cloches appeler à la messe dominicale, il s'associe à la prière des fidèles. Des manifestations ont lieu. Des congréganistes de la congrégation mariale, dont il est le directeur, viennent chanter sous ses fenêtres. Le provincial parvient à le voir le lundi. Il a la permission de lui passer un livre. En le lui tendant, il lui glisse à l'oreille. « Vous trouverez dedans des hosties consacrées. » Ainsi, pendant 8 jours, le prisonnier pourra communier. La semaine suivante, on le conduit à la prison de Stadelheim, division des malades, à cause de sa jambe de bois. Là, il peut dire la messe le matin entre 5 et 6 heures. Il reçoit de nombreuses preuves de sympathie. À la visite du cardinal, d'abord, il y a des bouquets puis des colis très nombreux. Qu'il fait distribuer, évidemment, à ses co-détenus. « Enfin, écrit-il, j'ai pu avoir ici ce qui m'était refusé depuis bien des années, c'est-à-dire le loisir, puis la solitude, pour mener une vie spirituelle réglée. Il est un peu comme un moine, hein? Ou un jésuite en retraite. » Avec beaucoup d'émotion, il assiste le dimanche à la messe des prisonniers. Pendant son séjour, il y a 3 exécutions capitales. Puis de sa cellule, il entend la lecture de la condamnation, la chute de la hache et la cloche des trépassés. C'est pour lui l'appel à la prière. C'est le 22 juillet 1937, donc, après une attente interminable, qu'il est jugé. Le procès lui offre une tribune inespérée pour exposer ses idées, alors il appuie sa défense sur le concordat, avec une argumentation là, si serrée que le juge finit par lui dire « Croyez-vous que ça nous amuse de siéger ici? » Et lui, très finement, répond « Certainement pas. J'aime 100 fois mieux être l'accusé que le juge. » Son avocat a beau montrer dans sa plaidoirie que si son client a défendu avec tant de fougue l'Église, c'est parce que celle-ci est violemment attaquée. Le père est finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis. Alors, à contre-cœur, pour obéir à ses supérieurs, le jésuite se résout à ne plus prêcher, mais le Gauleiter triomphe insolemment et dit « Voilà, oui, voilà comment il faut traiter les curés. Menacez-les de prison et vous leur fermerez la bouche, pour pas dire la gueule probablement, hein, ça avait été ici. » Et le père demande alors de relever le défi. Et avec l'approbation de ses supérieurs, bien, il remonte en chaire. Ce qui lui vaut une nouvelle arrestation le 5 janvier 1938. Ainsi, les jésuites sont encouragés, non seulement lui, mais ses supérieurs aussi. Alors, le juge lui dit, « Prêcherez-vous encore? » Ils répondent bien calmement, « Bien sûr, seul l'évêque a le droit de m'interdire la prédication. » Alors, il est incarcéré à la prison de Landsberg, celle-là même où Hitler a écrit « Mein Kampf », son fameux livre. Mais lui n'a pas le droit d'écrire. Ce qui lui est réservé, c'est quoi? La paillasse, une nourriture insuffisante, la ronde de nuit qui le réveille toutes les 2 heures, la promenade silencieuse dans la cour de la prison. L'aumônier lui apporte la communion 2 fois par semaine. Au bout de 2 mois, après plusieurs démarches vaines, le cardinal Faulhaber parvient à rendre visite à ce vaillant confesseur de la foi. Et il lui apporte une mallette et dit « Vous trouverez là tout ce qu'il vous faut pour célébrer la messe. Je vous autorise à la célébrer dans votre cellule. » Alors, cette mesure transforme l'existence du père Mayer. Après l'occupation de l'Autriche, Hitler octroie une amnistie qui libère le père Rupert Mayer le 3 mai 1938. Pas pour longtemps. Car peu après la déclaration de la guerre, la Gestapo l'arrête encore et l'interroge. « Pourriez-vous nous dire combien de membres du parti royaliste bavarois se sont entretenus avec vous? Pouvez-vous nous donner leur nom? » Il répond « Il m'est impossible de répondre à vos questions. Dussiez-vous m'adosser au mur sous la menace du revolver? Quelle confiance nos fidèles pourraient-ils avoir dans le prêtre s'ils savaient qu'il communique avec les agents de la Gestapo? La loi interdit, du reste, de citer un prêtre en justice chaque fois que son témoignage serait contraire à sa vocation. » Alors là, la Gestapo l'interrompt et lui dit, « C'est une loi caduque qui ne vaut plus. On dirait que vous voulez vous exposer à la violence pour être martyr. » Et le bienheureux père Rupert Mayer répond, « Un chrétien ne doit pas exclure le martyr de sa vie. » Alors voilà comment le bienheureux Rupert Mayer est incarcéré pour la 3e fois. Dès qu'il entend la porte de la cellule claquer derrière lui, il se met à verser des larmes cette fois-ci. Des larmes de joie. N'a-t-il pas été jugé digne de souffrir par amour pour le Christ? Un employé de la prison pénètre dans sa cellule et lui demande le motif de son arrestation. Et quand il l'apprend, il lui réplique, « Vous n'avez donc pas pu faire comme tout le monde, donner les noms? Vous savez bien que nous sommes en régime nazi, autrement, vous allez au-devant d'une catastrophe. » Et le père Mayer est condamné pour rébellion. Une 2e fiche précise, complicité avec les ennemis de l'État. Et ce grief entraîne le camp de concentration. Quand, dans la nuit du 22 au 23 décembre 1938, dans un compartiment réservé à la Gestapo, il prend le train de Berlin, tout espoir s'évanouit pour lui de revoir Munich. On le dirige sur le camp de concentration de Sachsenhausen. Là, plus de promenade, nul contact avec les autres prisonniers, puis il est séquestré avec un régime alimentaire des plus durs. Hein. Un peu de soupe à midi, le soir du pain, parfois un peu de saucisse ou de bouillie. Et les murs sont si minces qu'il entend les coups. Il s'attend à être passé par les armes d'un jour à l'autre. Il s'attend à mourir, quoi. Et deux fois par nuit, au cours des rondes, les veilleurs lui envoient en plein visage la lumière de leur lampe. Lumière crue. Un jour, il est convoqué à la direction. Vous êtes autorisé à dire la messe quand vous aurez reçu ce qu'il faut pour ça, mais vous n'avez pas le droit de lire. Aussitôt la messe dite, vous devrez rendre le missel. Il dit, pourquoi donc ai-je été arrêté? À cause de votre conduite. Il dit, vraiment, je ne vois pas ce que on peut me reprocher. Il dit, toute votre conduite, hurle le directeur, toute votre conduite, je vous l'ai déjà dit. Il dit, si vous ne me précisez pas sur quel point ma conduite est répréhensible, comment voulez-vous que je l'amende? Alors, c'est le 27 avril 1940, seulement pour la fête de Saint-Pierre Canisius, l'apôtre de l'Allemagne, qu'il put dire sa première messe à Sachsenhausen. Il a fait sa retraite annuelle de 8 jours pour se préparer. Le peu de friandises qu'il peut acheter à la cantine, il les donne aux co-détenus, qui lui apportent à manger et lui rendent service. Il écrit à sa vieille mère, « Ici, mes besoins vitaux sont réduits au minimum et j'en suis heureux. Je reçois ce dont j'ai strictement besoin et je ne veux plus rien. » Jadis, en dépit de mon travail forcené, j'ai toujours été un homme plus ou moins solitaire, vous savez. Aujourd'hui, je n'ai vraiment plus rien ni personne que le bon Dieu, et c'est assez, et plus que suffisant. Si les hommes pouvaient comprendre ça, maman, il y aurait un peu plus de bonheur sur la terre. J'évite de penser au passé ou à l'avenir pour me concentrer tout entier sur ma tâche quotidienne, et c'est ainsi que je trouve la paix. Je suis séparé de tout et de tous. Je n'entends plus parler du monde. C'est bien comme ça, car je ne puis rien faire ni changer. J'essaie de prier, maman, de m'offrir en sacrifice. Dieu ne me demande rien de plus. Sinon, il aurait conduit les choses autrement. Et là, le père Maillère dépérit peu à peu. Sa prothèse le fait beaucoup souffrir. Il s'adapte plus à sa jambe tant il a maigri. Et cet homme de haute taille, 1m80, ne pèse plus que 50 kilos, 125 livres peut-être. Soudain, le 7 août 1940, on lui enlève son costume de bagnard et on lui rend son costume de jésuite. La Gestapo l'amène par le train à Munich et en auto jusqu'à l'abbaye bénédictine d'Ettal, dans les Alpes bavaroises. On lui donne une chambre à l'hôtellerie. Qu'est-ce qui se passe? La Gestapo a peut-être peur que la mort du père au camp de concentration ne soulève trop d'indignation dans toute la Bavière, et surtout à Munich. Toujours est-il que les conditions de réclusion restent très dures et le père ne doit entrer en communication avec personne au dehors. Donc, défense de sortir du monastère. Il doit réduire sa correspondance au minimum, puis ne parler que de choses strictement personnelles. Il ne pourra recevoir aucune visite, sinon de ses parents les plus proches. Il ne devra ni célébrer en public à l'abbaye, ni entendre de confession. Et en apprenant ces conditions, le père Maillère est consterné, dit « Me voilà donc comme un mort. Cette mort pour moi, qui suis prêt, qui suis toujours vivant, est pire que la mort corporelle que j'ai si souvent attendue. Vraiment, la Gestapo a bien réussi son coup. Les gens vont dire « Le père Maillère est à Ettal, tu vois donc bien. » Ils ne se rendent pas compte combien m'afflige cette impuissance où je suis réduit. Je dois en effet faire attention aux moines bénédictins qui se montrent si bons pour moi. » Pour ne pas leur attirer d'ennui, je dois faire attention aux frères de mon ordre, les jésuites, aux militants de la congrégation mariale qui pourraient être arrêtés à leur tour à cause de moi. Alors, il accepte la croix qui pèse plus lourdement sur ses épaules puis rédige ses souvenirs de captivité. Puis un pasteur envoyé par la Gestapo pour juger si ses conditions de réclusion sont bien observées, qui a déclaré « Le père Rupert Maillère ressemblait à un lion en cage, un lion dont on aurait brisé les forces ». Il aurait voulu quitter en secret l'abbaye pour reprendre à Munich la lutte contre le nazisme. Il était prêt pour cela, à risquer la mort, mais l'obéissance l'a lié à son poste. Et ce pasteur ferme les yeux sur bien des choses. Outre la visite de sa mère, le reclus reçoit aussi celle de ses frères en religion, les jésuites, et il leur donne même les exercices spirituels. Alors, évidemment, le bruit se répand à Munich que le directeur de la congrégation mariale, bienheureux père Rupert Maillère, est reclus à l'abbaye d'Ettal, chez les bénédictins. et de nombreux pèlerins viennent manifester sous les fenêtres de la chambre numéro 6 de l'hôtellerie qu'ils ont repérée. Ordre, alors, est donné par la Gestapo de conduire le prisonnier dans une cellule intérieure de l'abbaye. Le père Mayer se réfugie dans la prière. Lorsque l'abbé du monastère va voir son pensionnaire, il le trouve le plus souvent le chapelet ou le bréviaire à la main. « Je n'aurais pas cru que Dieu puisse me visiter à ce point, » écrit-il. Il s'abandonne à lui avec une simplicité d'enfant et dit « Mon avenir est entre les mains de Dieu. Ça me suffit. » Le 6 mai 1945, les Américains libèrent l'abbaye d'Étal. Le 11 mai, le président Rauch vient le chercher dans sa voiture. « Êtes-vous prêt ?» lui demande-t-il. « Tout de suite, » répond tout heureux le père Mayer. C'est la libération. Le père Mayer remercie cordialement le père abbé du monastère bénédictin d'Étal et ses moines pour les soins dont il a été l'objet. En arrivant à Munich, il descend de l'auto pour prier au sanctuaire de Notre-Dame de Pitié. Sa première visite est pour le cardinal. Ses frères jésuites accueillent, évidemment, ce confrère avec une joie énorme. Aussitôt, le voilà happé à nouveau par la vie apostolique, et son carnet se remplit de toutes sortes de choses à faire, de prédications à fournir jusqu'à la fin de 1946, mais il va mourir bien avant. Il reprend le cours de ses prédications missionnaires. Le 27 mai, Munich lui ménage un retour triomphal, la ville entière. Aux côtés du cardinal, il se rend à l'église Saint-Louis, la seule des grandes églises restée intacte. Des milliers d'auditeurs se pressent à l'intérieur. Le père évoque ses souvenirs de captivité, combien il a prié Dieu pendant les durs bombardements de la ville. La ville a été presque détruite. Aujourd'hui, ajoute-t-il, la rancune se développe comme la mauvaise herbe. Vous ne devez pas vous laisser aller à ces désirs de vengeance. Dieu vous demande de pardonner. Et devant les hommes de la congrégation mariale, il traite, en une autre circonstance, de la responsabilité collective du peuple allemand et du monde entier dans la guerre. 4000 personnes l'entendent le dernier dimanche d'octobre. Il prêche encore le jour de la Toussaint, le 1er novembre. Je vous ai dit au début de l'émission qu'il meurt le 1er novembre, le jour de la Toussaint. Il prêche à la messe de 8 heures. Mais le voilà qui s'adosse au bord de l'autel. Et il dit, assez pour être entendu, « Le Seigneur, le Seigneur !» Et il est incapable d'achever. Une attaque vient de le terrasser. On l'amène à la sacristie dans ses vêtements sacerdotaux et le soir du même jour, à 23 heures, il expire. En recevant de Jésus, évidemment, la récompense qui est promise, et qu'il ressent jusqu'au fond de son être heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Dès que la radio annonce cette mort, la foule se presse à son cercueil. Des voyageurs avec leurs valises, des ouvriers en costume de travail. On fait toucher à son corps des chapelets, des croix, des médailles. Certains causent encore avec le défunt à mi-voix. Toucher à ce corps, tabernacle de la très sainte Trinité. Ce corps qui a été utilisé par sa mémoire, ses yeux, sa bouche, ses oreilles, ses mains, pour distribuer les grâces de Dieu. Eh bien, on veut y toucher, et c'est normal, c'est beau, c'est grand. Le 16 novembre 1945, en présence du cardinal et d'une foule immense, Mgr Goetzel, son successeur à la tête de la congrégation mariale, prononce l'éloge funèbre. Le père Rupert Mayer est mort. Munich pleure son apôtre. Ce deuil doit illuminer notre espérance chrétienne. Le dernier mot que le père Mayer a prononcé en chair fut « Le Seigneur, le Seigneur ». Oui, le Seigneur était au cœur de sa vie. À lui, toute sa pensée, toute son action, toute sa prière. Pour le Seigneur, il a travaillé et combattu. Dans l'esprit du Seigneur, il a servi et souffert. À nous d'achever la prédication interrompue. À nous de faire ce que le père Mayer n'a pu nous dire. Au nom du Seigneur, il nous a interpellés. De la part du Seigneur, il nous a invités. Le Seigneur dans son sacrement, Voilà celui qu'il voulait nous tendre à la fin du repas sacré. Voilà l'héritage du Père Maillère. Recevons donc le Seigneur avec joie et souvent. Et le portrait qu'a laissé un artiste, je l'ai ici en main, c'est superbe. Une tête admirable qu'avait ce Jésus, un regard de feu. Une tête de saint décidé. Ah, c'est formidable, il y a une fermeté, une bonté qui est là devant moi, c'est superbe. Il avait une haute stature très droite, hein, le regard clair, perdu dans le lointain, on le voit sur ce dessin. Oppressé par l'angoisse du siècle, il y a une bouche volontaire. C'est un soldat du Christ, un jésuite remarquable. Et je rappelle, s'il y a des jeunes là, qui m'écoutent, qui ont 25 ans, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui s'ennuient, et qui ont de l'instruction, et qui veulent devenir jésuites, allez-y donc. Décidez-vous si vous en avez la vocation. Répondez à l'appel. C'est tous ceux qui ont approché ce grand religieux ont senti un homme profondément uni à Dieu, vivant à sa présence, ayant reçu le don de haute raison. Une de ses dirigées qui l'avait reçue dans l'antichambre, qui avait reçu dans l'antichambre les confidences d'une autre personne attendant son tour, lui dit un jour, « Père, comment pouvez-vous supporter tant de boue à la confession? Comment pouvez-vous entendre tant de turpitude? » Il dit, « Ce serait en effet intolérable si je ne me disais, derrière ce mur au tabernacle, bas un cœur rempli d'amour et de miséricorde, près duquel on peut déposer tout ce qui pèse sur notre cœur. » Je vous ferai lundi une émission sur le Sacré-Cœur en parlant de Sainte Gertrude. Et c'est auprès du cœur du Christ que le bienheureux Père Rupert Mayer continue son intercession au ciel. Et des milliers de grâces répondent encore à sa prière à Munich et en Allemagne. Il pourrait le faire ici à Montréal, à Sherbrooke, dans tout le Québec. Le pape Jean-Paul II l'a béatifié dans le stade olympique de Munich devant une foule immense. Le 3 mai 1987, à l'épître, ou à la lecture de la deuxième lettre de Saint Jean aujourd'hui, ça se termine ainsi. Beaucoup d'imposteurs, les nazis, si vous voulez, et les autres, on en a ici. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. C'est Saint Jean qui parle. Eux qui ne professent pas la foi en Jésus-Christ venu dans la chair. Celui qui agit ainsi, c'est l'imposteur de l'an et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de votre travail, mais recevoir intégralement votre salaire. Celui qui va de l'avant sans rester attaché à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais, dit Saint Jean, celui qui reste attaché à l'enseignement, celui-là trouve le Père et le Fils, l'Esprit Saint.